Espace public, Couleur FM, Thierry Borde, bonjour. Bienvenue dans cette édition de mars de votre magazine Espace public. Le printemps vient d'arriver et avec lui une petite nouveauté dans notre magazine qui accueille pour la première fois un nouvel intervenant, un nouveau chroniqueur, en la personne d'André Duny, infatigable pédagogue et lanceur d'alerte qui a pris ses quartiers au bord du lac d'Aiguebelette. Et c'est en nous parlant de ce lac qu'André commencera son programme du jour avant d'aborder la problématique du nucléaire et de la centrale du Bugey. Notre programme se poursuivra avec un entretien exceptionnel enregistré dans nos studios avec Ranine Sawafta et Mohamed Aladra, deux journalistes palestiniens qui témoigneront de leur quotidien en Palestine. Comment exercer le métier de journaliste dans le conflit permanent qui oppose les territoires palestiniens et Israël? Enfin, notre dernier sujet nous amènera jusqu'au ministère de l'Éducation nationale, avec lequel le syndicat national des radios libres vient de signer une convention qui vise à renforcer le rôle de nos radios associatives dans le développement de l'éducation aux médias et de leurs pratiques dans les établissements scolaires. Et Couleur FM, qui intervient régulièrement dans de nombreux collèges, lycées, MFR ou écoles primaires, du Nord-Isère ne peut que s'en féliciter. Voilà, mais tout d'abord, place à André Duny, que je remercie encore très chaleureusement d'avoir rejoint l'équipe d'Espace Public et que nous joignons de ce pas par téléphone. André Duny, bonjour.
Bonjour.
Alors André Duny, vous êtes le créateur, le fondateur d'une association d'éducation populaire qui s'appelle La Seine, la coopérative de la nouvelle éducation populaire. Vous êtes maintenant un assez vieux baroudeur des radios associatives. Vous avez exercé pas mal dans les radios associatives de la Drôme ou de l'Ardèche ces derniers temps. Et puis on vous retrouve ici sur Couleur FM et on en est très heureux parce que vous venez de déménager et prendre une petite retraite tranquille dans un lieu merveilleux qui est le lac d'Aiguebelette, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Voilà, donc merci beaucoup André de nous rejoindre. Et aujourd'hui, pour commencer ces chroniques que nous allons pouvoir retrouver tous les mois sur Espace Public, vous aviez envie de nous parler un petit peu de ce lac d'Aiguebelette que vous êtes allé rejoindre.
Eh bien oui, c'est fait de nombreuses années, on va pas dire mon âge, hein, que je fréquente ce lac et que je suis heureux d'habiter pas loin de ses berges, et que ce lac, qui est le plus beau, le plus pur, le plus biodivers et le plus chaud d'Europe. Bon, on va dire de France pour pas faire dans la démesure, mais c'est un lac très fragile et très bien protégé par les populations riveraines qui sont mobilisées à l'occasion des championnats du monde d'aviron 2014-2015 contre des tentatives de le transformer en patinoire, comment on peut dire, un petit peu événementiel pour ne pas dire Afrique. Et voilà, moi je suis un riverain, mais c'est surtout pour la qualité de ses eaux, puisqu'on y puise de l'eau que je bois, on y puise d'excellents poissons que j'ai, notamment le lavaret, le plaisir de manger, que cet été j'ai été heureux de discuter avec les pêcheurs au cou qui sont sur ces berges. C'est un coin absolument merveilleux, et je rappelle que quand même il y a une histoire de ce lac avec les communes riveraines qui étaient jadis tout à gauche, qui sont maintenant, semble-t-il, largement à droite, voire extrême droite, hélas, qui ont tout fait pour un égout circulaire, et cette eau ici est super propre, super bonne, et compte tenu de tout ce qui nous arrive en escadrille, comme disait un ancien président, c'est-à-dire ces menaces, ces dangers que sont le réchauffement climatique accéléré, le changement climatique, que sont le possible effondrement des banques, que sont les ennuis nucléaires, dont on aura un petit instant pour parler, eh bien, il peut être un lieu ressource pour la population. Et ce lieu ressource est menacé.
Il est menacé par quoi?
Alors, la menace, c'est celle que propulse sur Internet, et vous pouvez taper SOS Lac d'Aiguebelette, ou Lac d'Aiguebelette en danger, SOS Lac d'Aiguebelette en danger. Ce sont ces constructions inutiles et dégradantes, comme il y a des projets inutiles, dangereux et très chers pour les finances publiques, comme Notre-Dame-des-Landes ou les Center Park ou le Lyon-Turin, dont j'espère avoir l'occasion de faire un petite allusion là, prochaine émission.
Avec plaisir.
Ouais, avec plaisir. Hein. Ici sont des câbles qui sont tirés, des câbles sous-marins qui sont tirés pour faire les couloirs des compétitions mondiales d'aviron sur ce lac, qui est un petit lac, hein, je répète, très fragile. Il a déjà été fragilisé par l'ouverture d'une route sur la façade est. Il est fragilisé par des écoulements venant de l'autoroute Vinci. Il est fragilisé par des ordures qui ont été enterrées sur ses berges. On ne dira pas où ni comment, on le dira plus tard quand un témoin voudra bien parler. Et du coup, là, il y a des vestiges lacustres qui sont incroyables, qui datent de 4500 ans, qui sont au répertoire de l'UNESCO, qui sont classés monuments historiques. Quand je dis 4000 ans, c'est 4700 ans. C'était un site lacustre avec des pieux qu'on peut voir. Il y a même une barque qui a été mise à disposition vers la communauté de communes qui s'appelle la Maison du Lac. Et ces câbles, au mépris de tous les règlements, ont été mis en travers. Ces câbles ont impacté des pieux de cette cité lacustre de 6000 ans, 6700 ans, qui sont pourtant au répertoire de l'UNESCO et qui sont pourtant classés monuments historiques. Le cahier des charges n'a pas été respecté, et voilà. Alors, ce qui est grave, c'est que tout ça est fortement poussé par le Conseil Général de Savoie, qui ont investi 13 millions d'euros, et c'est pas pour faire du lac simplement un petit endroit où on viendrait deux fois par an, comme le demande ce collectif d'associations SOS Lac d'Aigbelette. C'est bien pour en faire un lieu de tourisme, y compris avec construction dure et pas seulement des câbles sous-marins. Voilà, il est menacé parce que cet été, ils ont fait des câblages qui ont cassé des pieux à l'ouest du lac, où plus de population, plus de spectateurs, donc plus d'argent pour ces compétitions, ont été tirés à la rive ouest du lac, alors que, côté Saint-Alban, hein, de Montbel, alors que existait déjà une installation avec un petit immeuble, un petit un truc en bois, pas trop moche, qui était sur cette rive est. Cette installation à rive est suffit largement à organiser deux compétitions mondiales par an et quelques entraînements. Pourquoi ont-ils voulu tirer les lacs? Ben parce qu'il y a derrière tout ça d'arrière-projets de construction dure, etc. Voilà, je me suis beaucoup intéressé au lac d'Aix-les-Bains, qui est, lui, entièrement dioxiné. Bon, on racontera pas aux prochaines émissions qu'est-ce qui se passe autour du lac d'Aix-les-Bains, qui est la proie des affairistes, des investisseurs, des banques, des constructeurs immobiliers, des McDo, des tout ce qu'on voudra, de la 5e Marina. C'est un lac qui est en train d'être pourri par une exploitation éhontée. Ce lac, si vous voulez, est saturé. Du coup, comme Aix-les-Bains est aussi saturé, comme Annecy est aussi saturé, comme le lac Léman est saturé, il y a toute une classe moyenne très aisée, ou une bourgeoisie très aisée, qui recherche des lieux loin de, justement, des centrales nucléaires, de la pollution, pour elle et ses enfants. Hein, on voit dans le boom immobilier qui est en train de se passer ici, et le risque est que ces berges soient progressivement et insidieusement bétonnées, et tout ça avec la complicité des élus, je mets un Z apostrophe, des élus qui trop souvent font appel aux Z investisseurs, pour faire soi-disant du développement ou de la croissance, parce que ce serait bon pour l'économie, bon pour le commerce, bon pour ceux qui profitent du commerce.
André, c'est une hypothèse ou c'est quelque chose qui a été avéré?
Ce qui est avéré, c'est qu'il y a eu 6 procès, avec recours au tribunal administratif de Grenoble, 6 gains de cause pour la pluralité des associations SOS Lac d'Aigbelette. Il y a de nouveau 5 recours en septembre pour le tribunal administratif de nouveau sollicité. Il y a eu des constats d'huissier sur la qualité de ces eaux, la destruction ou le risque avéré de destruction par les câbles, le risque de pollution des eaux de captage pour la population également. Voilà, quant à la pression immobilière,
associations...
a commencé, puisqu'il y a 2 nouveaux lotissements sur Aigbelette, ça intéresse beaucoup de gens. Donc oui, ça commence, quant à ma commune, je vais au conseil municipal, elle vend l'hôtel du lac, elle a fermé le petit musée du lac qui était merveilleux, animé par la FAPLA, des bénévoles, et elle le ferme au mois de juin, alors que la saison, on aurait pu attendre le mois de septembre. Donc je suis très très mécontent de tout cela, mais c'est pas parce que je suis mécontent et que je suis un bobo riverain, c'est parce que ici, réside un site qui profite énormément aux gens qui habitent à Bourgoin, à la Tour du Pin, aux Abrets, à Pont-de-Beauvoisin et à Lyon. 5 000 à 6 000 entrées cet été quand il faisait très chaud, de gens venant en train, puisqu'il y a 10 arrêts de train par jour ici à Lépin-le-Lac, puisqu'il y a croisement des trains. C'est un lac qui rend des services à la population, c'est pas trop cher, quoique de mon temps c'était tout gratuit les accès à ce lac, aujourd'hui c'est payant. Ce merveilleux plan d'eau qu'il faut sauvegarder pour le bien-être de tout le monde, en militant aussi pour qu'il y ait d'autres plans d'eau qui soient construits en Orisère, où il manque cruellement, et aussi près de Chambéry, où il manque également. Or, il y a des endroits formidables, comme à Rosan, comme à Sisteron, comme à Digne, comme à Bourg-en-Bresse, où, sous la pression de la population et aussi des élus intelligents, qui ont fait des plans d'eau artificiels qui assurent un bien-être total.
Mais en tout cas, effectivement, dans le Nord-Isère, on est tous bien conscients de la nécessité de préservation de ce merveilleux endroit de nature qu'est le lac d'Aiguebelette. Je pense qu'on l'apprécie tous ici. Et d'ailleurs, quand vous parliez de pêche tout à l'heure, je voyais Laurent dans le studio à la technique qui approuvait parce que c'est un grand pêcheur devant l'éternel. Enfin, au sens premier du terme, bien entendu. Voilà. Alors André, vous vouliez aussi nous parler de nucléaire.
Je voudrais dire que pour nos auditeurs qui sont sous les bises dominantes des 4 réacteurs plus le 5e qui est éteint, hein, Graphite Gaz, les autres c'est Westinghouse, General Electric, qui arrivent en fin de vie, hein, qui arrivent à 30 ans, on avait dit qu'on ferait pas
au Bugey, hein, c'est bien ça.
Les 4 réacteurs de la centrale de Bugey, oui, de Saint-Vulbas. Eh bien, il y a des inquiétudes énormes. Bon, ça, je renvoie avec grand plaisir à l'association Stop Bugey, qui se mobilise au rond-point. Je l'ai vu récemment sur les ronds-points. Mais il n'empêche, les lobbies industriels et étatiques français qui militent pour dire que le nucléaire, ce qui est faux, est un bon moyen d'avoir de l'électricité pas chère, c'est faux. Et puisqu'on ne compte pas le traitement des déchets, l'enfouissement à bure, le démantèlement qu'on ne peut pas démanteler, les graves risques sanitaires pour la population, et notamment en cas d'accident, ce nucléaire-là n'est pas un paravent contre le réchauffement climatique, bien au contraire, puisque on ne compte pas, bien sûr, l'extraction d'uranium dans les mines du Niger, soutenue par le Crédit Agricole, avec des ouvriers qui meurent à 28 ans en moyenne, ou 32 ans, hein, laissant des veuves éplorer. Et le nucléaire n'est ni propre, ni un paravent. Alors, voilà, ce qui arrive aux populations de Nord-Isère, c'est une zone très très peuplée, il y a aussi Lyon, c'est d'être sous les vents dominants, et s'il y avait un pépin, ce serait assez grave. Alors là, vous avez vu qu'on distribuait des pastilles d'iodure de potassium, c'est pour saturer la thyroïde d'iode, pour éviter que l'iode radioactif gazeux qui s'échappe quand il y a un accident ne vienne impacter les populations avec un possible cancer de la thyroïde, comme c'est le cas à Tchernobyl. Je rappelle quand même, et je pourrais donner toutes les références aux auditeurs qui seraient intéressés, hein, qu'un certain nombre de livres d'enquêtes, notamment américaines, sur les conséquences de Tchernobyl, chiffrent à 1 million de morts, Tchernobyl. Et nous, nos élus, les médias dominants, le lobby nucléaire, les industriels, ont tout fait pour masquer les très graves conséquences de Tchernobyl, comme ils font tout pour masquer les très graves conséquences de Fukushima. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour être très précis, je citerai le directeur lui-même, hein, de l'ASN. C'est l'autorité de sûreté nucléaire. C'est un organisme tout à fait officiel, hein, financé par l'État français, qui est absolument indépendant, puisqu'il n'est pas sous la tutelle de groupes politiques. Et voilà ce qu'il dit. Le contexte en matière de sûreté de radioprotection est particulièrement préoccupant. Ce monsieur, c'est le président, c'est Pierre-Franck Chevet, et il n'a pas mâché ses mots à l'occasion de ses vœux à la presse, là, en janvier. en dressant un constat totalement alarmiste de l'état du nucléaire en France. Je répète, ce monsieur est un chercheur, un scientifique, qui a en charge l'autorité de sûreté nucléaire, qui doit mettre des générateurs diesel de secours en cas de noyade comme à Blaye, où on a failli friser en France un très grave accident nucléaire du fait des remontées des grandes marées d'ouest. Vous vous souvenez, hein, si le générateur de secours n'était pas parti, et d'ailleurs il voulait pas partir, on aurait eu assisté à un Tchernobyl français. Voilà. Et son discours d'une trentaine de minutes, il qualifie d'enjeu sans précédent cet épineux dossier de la prolongation de durée de fonctionnement des réacteurs au-delà de 40 ans. Une prolongation dont ce gendarme du nucléaire a rappelé qu'elle n'était pas acquise. Ce qui voudrait dire qu'il entrerait directement contre la ministre de l'écologie, le président de la République, les élus de droite ou de gauche, qui veulent absolument prolonger de 10 ans la vie des réacteurs. On est loin donc d'avoir décidé des conditions, dit-il, mais l'échéance se rapproche. La première visite décennale est fixée à Tricastin 1 en 2019. Une première décision sort de document de prescription en fixant les grandes orientations est annoncée pour les prochaines semaines. Sur ce sujet, donc, Pierre-Franck Chevet a manifesté le souhait d'organiser la participation du public. Or, c'est pas prévu dans les statuts quand a été créée cette autorité de sûreté nucléaire après Tchernobyl. C'est pas prévu dans les statuts, après scandale Tchernobyl, vous savez, ce nuage qui est jamais passé au-dessus de la France, mais qui continue de faire des cancers. Ça n'est pas prévu, mais il dit que vu les enjeux gravissimes, il faut y associer la participation du public nécessaire, vu les enjeux. En Belgique également, les experts en sécurité nucléaire sont inquiets.
Quel âge a la centrale du Bugey ?
Elle a 29 ans, je crois qu'elle s'approche des 30 années tout prochainement.
Et globalement, elle est l'enjeu est aussi épineux qu'a Fessenheim, par exemple, en Alsace.
L'enjeu est moins épineux que Fessenheim, qui est lui sous il y a un canal qui est au-dessus de la centrale. Donc, si une digue rompait, ben on aurait un bout de Tchernobyl. C'est la plus vieille, hein, Fessenheim. Le président avait dit que s'il était élu, il la fermerait. On assiste à une valse hésitation concernant la fermeture de Fessenheim, qui est à la fois vieille, située sous le niveau de ce canal, avec un risque de submersion type tsunami, mais plus grave, il est aussi sur une faille sismique. Or, comme on sait, les dalles des centrales nucléaires françaises qui doivent être refaites, celles au moins sur les failles sismiques, comme Cruas, 4 réacteurs, ou plus au sud, Pierre-Latte, ces dalles se sont d'un mètre d'épaisseur, en rappelant qu'à Tchernobyl, la dalle était beaucoup plus épaisse. L'uranium, c'est un milliard d'années avant de perdre la moitié de sa radioactivité. Voilà ce qu'il y a dans les centrales. Et le plutonium, avec le MOX, qui est un mélange d'uranium et de plutonium, et qui fonctionne à Bugey, le MOX, le plutonium, c'est 220 000 ans avant de perdre la moitié de sa radioactivité. Et je rappelle qu'un picogramme, vous entendez bien, un picogramme, un milliardième de gramme, c'est-à-dire juste une petite substance qui peut voler comme ça, à tout hasard, en cas de pépin, que vous inhalez par hasard, parce que le vent vient vers vous, c'est un cancer à 100% du poumon assuré. Voilà, alors, il est très important que, on rejoigne Stop Bugey pour qu'on se bouge, vu toutes les alertes lancées par les plus hautes autorités nucléaires.
André, moi je suis ravi qu'on vous retrouve maintenant régulièrement dans nos émissions, parce que vous avez quand même un côté fort rassurant pour tous nos auditeurs. Et en tout cas, peut-être mobilisateur, on va rappeler où et comment nos auditeurs justement peuvent avoir davantage d'informations, ou s'ils souhaitent se mobiliser autour du nucléaire et du Bugey.
Il y a l'ACRIRAD, c'est-à-dire cet organisme indépendant, autofinancé entièrement par la société civile. L'ACRIRAD qui est à Valence, vous tapez CR2IRAD, certains disent c'est le CRI du RAD, radium, radioactivité. Oui, L'ACRIRAD,
c'est une organisation qui fait un travail
vous
précieux.
Vous trouvez ça sur le site de la SEN aussi. CEN.org. Tout ce que je viens de raconter est un énorme dossier qu'on a mis sur le site, qui est déjà un petit peu ancien.
André, donc on va citer aussi l'association, c'est Stop Bugey, c'est bien ça ?
Voilà, alors l'autre association, vous tapez Stop Bugey, si je ne me trompe pas, et donc vous tapez Bugey ou Stop Bugey, et vous tombez sur une association très active.
Voilà, et pour se renseigner, pour se mobiliser autour de la défense de ce très beau lac d'Aigbelette, comment peut-on faire ?
Écoutez, c'est très simple, vous tapez SOS, lac d'Aigbelette, SOS, lac d'Aiguebelette, et vous avez toutes les informations. Et je voulais donner l'autre information qui peut peut-être intéresser quelques auditeurs.
Un peu d'agenda pour la scène.
Voilà, l'agenda, mais très bref, c'est qu'il y a Assemblée Générale Congrès, donc ça se déroule sur 2 jours, à Château Partagé à Dulin, c'est en surplomb du lac d'Aiguebelette, juste à l'opposé de là où j'habite, mais juste à 2 kilomètres du lac, à Dulin, au Château Partagé, il y a l'Assemblée Générale de la CEN, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours venir. C'est un lieu merveilleux parce que c'est des gens qui font du pain, qui font des légumes, puisqu'il y a mon ami Thierry qui, de la Confédération Paysanne, qui fait de la traction animale et des légumes bio pour les marchés de Novalaise et pour les restaurateurs du coin. Ils ont aussi une université du Nou, des cours de yoga. Ils vivent à 12 de familles là-haut, ou 10 de familles. Et c'est là qu'ils nous accueillent pour cette assemblée générale congrès, puisqu'on commence samedi autour de 10h et on finira dimanche autour de 16h.
La date ?
16-17 avril prochain.
16-17 avril prochain, bah avec grand plaisir, parce que les AG de la Seine, c'est toujours l'occasion de convivialité, puis d'échanges et de discussions intéressants. Bah merci beaucoup André, on se retrouvera de toute façon le mois prochain pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles chroniques.
Eh bah merci à toi.
Et voilà, c'est pour ça qu'on l'aime, notre André Duny, il a toujours l'art de nous mettre en joie.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
si tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Trio avec l'hymne de nos campagnes. Tout autre chose maintenant, mais un sujet qui n'en est pas moins particulièrement important. Nous poursuivons notre cheminement printanier avec une très belle rencontre, celle de Sranin Sawafta et de Mohamed Aladra. Ce sont 2 journalistes palestiniens venus à la rencontre des médias du réseau Médias Citoyens dont nous faisons partie, comme vous le savez. Nous avons enregistré cet entretien dans nos studios de Bourgoin-Jallieu le 9 mars dernier. Nous avons la chance d'accueillir deux amis, deux confrères palestiniens. Donc nous sommes avec Véronique Boulieu et puis avec un autre ami qui est venu nous aider pour la traduction, c'est Boualem Azzaoum. Merci Boualem d'être là avec nous pour accueillir donc nos deux invités. Nos deux invités, c'est Ranine Sawaftad. Ranine, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes Ranine, journaliste radio en Palestine, dans la vallée du Jourdain. Vous allez nous raconter tout à l'heure votre vie de journaliste là-bas en Palestine. Et puis vous êtes venu nous voir avec Mohamed Aladra, qui est lui étudiant en journalisme dans la région de Hébron. Voilà, donc merci à tous les deux d'être venus nous voir. Alors on va rappeler que vous êtes ici dans le cadre d'un projet de notre réseau partenaire Médias Citoyens, un projet de coopération entre nos médias et vos médias là-bas, ou pour aider aux échanges entre nos différentes pratiques. J'aimerais peut-être Ranine, avec vous commencer par découvrir un petit peu quel est votre quotidien de journaliste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites exactement? Quelle est votre radio et qu'est-ce que vous faites exactement pour cette radio?
Je travaille, donc je traduis, donc il est une correspondante d'une radio, donc Radio AGL Génération. C'est une journaliste de terrain et travaille donc dans la région de Jenin et en général dans la Cisjordanie, et il s'occupe aussi d'une cause, donc c'est souvent Arwar. Arwar, c'est une région qui est très marginalisée, et il essaye donc d'informer et de faire des rapports sur cette région. Arwar, c'est une région sous domination israélienne, et ça en découle donc des accords d'Oslo qui ont créé les régions A, B, C, et c'est parce que c'est les Français savent sur cette classification, mais le C, c'est vraiment la région qui est sous domination entière israélienne. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Il n'y a pas de service, il n'y a pas d'électricité. Pour rappel, Arwar, donc c'est une région de Cisjordanie. Il représente 28% donc de la surface de la Cisjordanie. Donc c'est déjà, la Cisjordanie, c'est très petit. Donc c'est très petit. Avant 67, il y avait 300 000 Palestiniens. Aujourd'hui, il y a moins de 57 000. Donc c'est une région qui est très 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 difficile pour les Palestiniens qui vivent là-bas. Donc elle, il essaye de mettre, d'informer, et elle essaye de donner plus d'informations sur les Palestiniens de cette région, qui est méconnue.
Donc son activité de correspondante de presse se passe dans cette région, en zone C, et par contre la radio, elle est basée où ?
Donc la radio, c'est une radio palestinienne qui couvre toute la Cisjordanie et Gaza. Donc il est correspondant dans le nord de la Cisjordanie, mais il couvre essentiellement donc la région de l'Arwar, parce que c'est là-bas où il se passe beaucoup d'événements. Malheureusement, c'est là-bas où il y a beaucoup de drames. Et donc elle, c'est une correspondante de presse de terrain. Donc il couvre, bien sûr, il a un autre collègue qui couvre la capitale, qui couvre donc Jérusalem, mais elle, il couvre essentiellement, bien sûr, donc cette région de l'Arwar. Il la couvre du point de contrôle de Bissan jusqu'à la mer Morte. Donc c'est une région assez conséquente, et comme il insiste, et comme chaque fois, cette région où il se passe beaucoup de choses, il se passe trop de choses. Donc il va rappeler quelques chiffres et quelques réalités. Donc la région de l'Arwar, comme il l'avait déjà dit, 57 000 habitants, et 95% de la superficie est contrôlée par Israël. Donc il y a 37 colonies et il y a des régions militaires qui servent à l'entraînement pour l'armée israélienne. Donc, comme il a rappelé, 5% de la superficie est occupée par 57 000 Palestiniens, donc de l'Arwar, pendant que 8 000 colons, ils contrôlent le reste et ils exploitent 98% des ressources hydrauliques. Donc, il va essayer de parler donc de son quotidien, de son travail en tant que journaliste et en tant que militante bénévole aussi dans la campagne Sauver l'Arwar, Donc il part, quand il couvre donc les événements, notamment donc les écoliers, les écoles, etc. Et surtout aussi qu'il a été victime, comme d'autres, de violence et d'empêchement de la part de l'armée israélienne.
Alors justement, vous êtes une jeune journaliste palestinienne, vous êtes une femme. Est-ce que c'est compliqué en Palestine de pouvoir exercer son métier ? Est-ce que la liberté de la presse est présente ou pas ?
Donc, bien sûr, en tant que femme, il y a des difficultés à exercer le métier de journaliste. Mais en même temps, là-bas, hommes ou femmes, quand il y a des événements, quand il se passe l'événement, c'est la même chose, c'est le même traitement par rapport à l'armée israélienne. Parfois, il y a quelques facilités en tant que femme d'y aller.
Est-ce qu'elle se sent en danger par moment ?
Bien sûr, le danger est permanent, donc il l'a plusieurs fois rencontré. Et bien sûr que c'est difficile pour elle quand il y a un événement, quand il se passe, pour se rendre, c'est la plus proche. Mais des fois, c'est très difficile parce qu'il peut être toute seule, comme une proie, donc c'est son mot, face à des soldats israéliens très excités.
Alors, elle est à la fois bénévole dans une ONG et journaliste. Est-ce que les deux fonctions, des fois, c'est un petit peu gênant ?
Il n'a pas de difficulté à concilier les deux. Donc, son travail en tant que bénévole, c'est aussi d'informer, c'est aussi d'aider, c'est aussi de rencontrer les bénévoles internationaux quand ils arrivent pour aider la population en souffrance. Et en tant que journaliste, c'est aussi d'informer. L'occupant israélien, donc, il a beaucoup peur du son, il a beaucoup peur des mots, donc il a beaucoup peur de ce que peuvent dire les journalistes. Et à un moment donné, il trouve que il y a une espèce de convergence sur les deux. Mais en même temps, il arrive à faire la part des choses. Et quand il est journaliste, c'est une journaliste. Et quand c'est une bénévole, et quand c'est une militante, c'est une militante. Et il essaye de concilier les deux pour qu'il n'y ait pas de confusion.
Ça paraît presque surprenant finalement qu'Israël autorise une radio à diffuser alors qu'on sait très bien que justement des gens comme Ranine vont aller faire des reportages sur les terrains pour essayer de dénoncer ce qui s'y passe.
Donc, l'autorisation, il n'est pas celle de l'occupant, ce n'est pas celle d'Israël. Il y a des conventions, il y a des accords internationaux. Donc, eux, ils sont dansés. Donc, c'est l'autorité palestinienne qui donne l'autorisation. Il y a des ministères pour ça. Mais l'autorité israélienne, ils peuvent gêner le fonctionnement et exercer des rétorsions techniques sur la radio.
C'est quoi ? C'est du brouillage ?
Voilà, c'est ça, exactement. C'est le mot que je cherchais. Donc, il peut faire du brouillage sur les radios. Mais l'autorisation, il vient bien de l'autorité palestinienne.
Mohamed, pourquoi vous avez envie de devenir journaliste ?
في البداية أنا وجه تحية للشعب الفرنسي الحر ووجه تحية لكل العاملين في راديو ألوان.
Donc au début, il adresse son salut au peuple français libre et la radio Alouane et ses journalistes et les personnes présentes.
Alouane, ça veut dire couleur ?
Couleur, voilà, c'est ça.
Au fait, vous êtes bien sûr Couleur FM, radio Alouane.
Alouane FM. أنا وددت أن أكون صحفيا أكون صوت الشعب الفلسطيني وصوت أهلي في المنطقة التي أعيش فيها.
Donc il voulait être un journaliste pour être la voix de son peuple palestinien et la voix des siens et de sa famille qui habitent dans la région.
نظرا لصعوبة الوضع والحياة في المناطق التي نعيش فيها المصنفة سي كما قالت زميلتي رنين.
Parce que il y a une situation très difficile et notamment donc la zone C où ils habitent.
في هذه المناطق محرومين من البناء من التعليم من الكهرباء المياه نحصل عليها بصعوبة بالغة.
Donc dans ces régions ils sont privés d'électricité, ils sont privés de construire, l'eau est très difficile à avoir. Donc quand il était petit pour aller à l'école, il fallait traverser une montagne. Il y avait de l'eau, il y avait de la gadoue, il y avait de grandes difficultés. C'était pour lui presque une guerre d'aller à l'école. Donc parce que l'occupant israélien, il fermait les routes. Et il faisait en sorte qu'il n'y ait pas de lien entre les régions palestiniennes. Donc il y a un récit palestinien qui doit arriver au monde entier et au peuple libre. Donc par rapport à son expérience et par rapport à ce qu'il vit, ça lui a donné envie d'être journaliste.
Voilà, donc c'est vraiment une volonté de témoigner, de dénoncer. Et donc avec peut-être pour vous, Mohamed, comme pour vous, Ranine, ce besoin, et ça correspond peut-être à l'engagement de Ranine dans cette ONG, ce besoin de montrer à l'extérieur ce qui s'y passe, montrer à ce que vous appelez les peuples libres, ce qui se passe chez vous.
Donc la lettre, c'est de dire que le peuple palestinien a droit d'avoir une vie, que les enfants ont le droit d'aller à l'école, et pour aller à l'école, ils ont le droit d'avoir une école. Donc ces enfants, ils ont le droit d'avoir une maison, ils ont le droit de ne pas être sortis de leur maison, expulsés, ils ont le droit de jouer, ils ont le droit d'avoir des endroits où on peut jouer. Mais ils ont le droit qu'on les traite autrement que de les sortir et de les amener vers des terrains où il peut y avoir des mines, il peut y avoir des engins explosifs. Donc la lettre aussi qu'ils veulent donner au monde entier, c'est de l'enlever, cette cécité sur ce qui se passe. Ce qui se passe donc en Palestine, ce que fait l'occupant. Le peuple palestinien, c'est un peuple qui aime la vie. Il aime la paix. Il aime la liberté. Il déteste la violence, le sang. Ils ne sont pas contre le christianisme, ils ne sont pas contre le judaïsme, ils sont contre aucune religion au monde. Donc ils n'ont aucune animosité contre telle faction ni telle religion. Qu'il y a des juifs palestiniens qui vivent à Naplouse, comme il y a bien sûr des palestiniens chrétiens qui vivent à Bethléem. Les Palestiniens sont des gens qui aiment la vie. Qui sait qui fait qu'un enfant peut partir sur le dos d'un âne dans une école plus loin de la sienne qui a été démolie? Donc c'est des personnes qui aiment l'école, c'est des gens qui aiment la paix. Donc avant qu'il soit une journaliste, c'est d'abord une citoyenne palestinienne. Donc une citoyenne, dans une Palestine, il n'y a même pas de service militaire. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on les expulse de chez nous? Donc Ranine, dès qu'il est d'abord c'est une femme, c'est une jeune, qui aime la vie, qui aime se balader, etc. Donc mais qu'est-ce qu'il peut faire? La presse, c'est le quatrième pouvoir. Donc il va donner l'exemple de la France, de ce climat en France. Les journalistes, ils sont libres. On n'agresse pas les journalistes. Donc on n'agresse pas les journalistes.
Mais beaucoup moins.
Voilà. Les journalistes, ils font leur travail, donc ils essayent de faire de même en Palestine.
Véronique.
Alors, vous êtes deux jeunes Palestiniens, vous êtes en train de nous délivrer un message de paix. Vous avez toujours connu la guerre. Pour vous, quelles sont les solutions? Comment on va se sortir de ce conflit? Je pose une question qui est impossible.
Juste, je rajoute, le journalisme, c'est un petit peu votre arme à vous.
Leur arme, c'est la parole. Parce que la propagande, il est énorme et il s'évite partout. Donc votre question, il est difficile, mais il va répondre par une question. Donc la guerre, elle est très difficile, mais la guerre, c'est d'abord un équilibre, entre les protagonistes. Donc sa guerre à lui, c'est la paix. Donc c'est un message pour les gens, les personnes libres. Donc ils se posent la question, comment des Palestiniens qui peuvent être sur des dos d'âne, comment ils peuvent occuper la terre d'un pays qui est très puissant. Donc il vous invite, il invite tout le monde, donc la radio ou toute personne à venir voir et se rendre compte de lui-même.
Et c'est là que, c'est là qu'est la clé en fait. C'est-à-dire que ce dont peut-être vous avez besoin, c'est qu'on complète notre manière, dans les pays libres occidentaux, de voir l'actualité internationale. Quand on entend parler de la Palestine en France. Nous ici, on entend surtout parler de la position israélienne. On voit beaucoup, on entend beaucoup parler des attentats perpétrés par des Palestiniens. Par contre, on n'a pas d'informations qui viennent des citoyens, du terrain, de ce qui se passe en réalité dans la vie de tous les jours. Est-ce que l'enjeu pour vous, c'est de produire des informations pour envoyer vers l'international?
Donc, en tant que journaliste, en accord et en partenariat avec des journalistes en France, ils essayent donc de donner un autre récit, ils essayent d'avoir un récit palestinien basé sur la réalité et le terrain.
Qu'est-ce que vous attendez d'un voyage en France, justement?
Donc, le but aussi, c'est de voir comment travaillent les médias français, comment travaillent les journalistes français, pour avoir une idée sur les médias citoyens français, et pour faire un partenariat et essayer de monter un centre média. Donc, ils essayent, donc, à travers ce centre, de faire passer un message palestinien, et aussi de chercher donc des partenariats et de l'aide, que ce soit technique, que ce soit sur le contenu, que ce soit sur l'information. Pour le volet technique, du moment qu'il y a des partenariats, c'est pas très difficile donc de l'acquérir. Mais ils voulaient voir de visu, ils voulaient voir d'elles-mêmes, de très près, comment le peuple français, je la cite, le peuple romantique français, qui n'aime pas le sang, et comment ce peuple regarde et comment il reçoit donc les événements et la question palestinienne.
Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous regardez les médias français quand vous êtes en France? Parce que ce qui est intéressant, c'est comment nous, on traite l'information palestinienne en France et comment ils la reçoivent.
Vous avez demandé comment on regarde la question palestinienne dans les médias français. Et depuis 10 jours qu'ils sont là, donc ils savent que la France traverse une période difficile, il y a des choses très compliquées, et que parfois la question palestinienne elle est secondaire, et qu'il y a d'autres choses plus importantes que la Palestine pour les Français. Ils disent, ils demandent comment ils regardent la question palestinienne dans les médias français. C'est lui qui retourne la question pour dire comment vous voyez-vous la question palestinienne, et que ça dure depuis 60 ans.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que la réalité en France, enfin, la réalité n'est pas unique. En France, il y a différents types de médias comme ailleurs. Et effectivement, il y a dans les médias dominants, qu'on appelle dominants et qui peuvent avoir les moyens de traiter l'actualité internationale, effectivement, on a plutôt les points de vue dominants, des acteurs dominants. Par contre, les plus petits médias comme le nôtre, par exemple, ou comme nos réseaux de médias associatifs, ont besoin de coopération avec des gens comme vous, sur place, pour pouvoir ramener l'information ici. C'est pour ça qu'il est important qu'on apprenne à travailler ensemble au-delà des frontières.
Donc c'est pour ça qu'ils sont heureux d'être là. Ils souhaitent ça pour qu'il y ait des partenariats, qu'il y ait du travail entre des Palestiniens, des Français, des Palestiniens et des Européens. Donc, il est conscient, il y a aussi tout ce qui est les réseaux sociaux. Donc, il a parlé aussi de la formation qui n'est pas véhiculée que par les plus forts. Mais il y a aussi entre les peuples, c'est pour ça qu'il y a ce centre de médias. Il aura aussi le rôle d'irriguer, il aura le rôle aussi de diffuser le plus d'informations envers les deux peuples.
En aparté, le centre de médias dont il s'agit, donc Media Center, qui devrait se situer dans une localité au sud de Bethléem qui s'appelle Beit Omar, est une réalisation souhaitée par des organisations locales et puis aidée par nos organisations aussi, et dont Ranin et Mohamed souhaitent le développement. Ouais. Mohamed, j'aimerais revenir à vous. Qu'est-ce que c'est d'être étudiant en journalisme en Palestine? Qu'est-ce qu'on apprend? Comment on apprend? Où à l'université?
La spécialité donc de médias et information, médias et presse, donc c'est dans l'université d'Hébron, donc c'est 5 ans en 5 ans, donc après, je suppose après le bac. Donc c'est une spécialité multiple, que ce soit dans le son, dans l'écrit, dans l'image. Donc il y a aussi des spécialités de documentaire sur les récits, les histoires des personnes, et aussi sur les reportages. Donc il y a quand même des exercices, des entraînements, il y a des enseignements aussi pour aller sur le terrain, pour réaliser des petits reportages, des reportages vidéo, que ce soit sur les checkpoints, donc sur les barrages policiers. Donc, et à un moment donné aussi sur tout ce qui se passe comme événement sur le terrain. Mais quand il s'agit de couvrir donc des événements militaires, ça, c'est là où il y a la catastrophe, quand il y a l'intervention militaire. Donc il y a les fouilles, il y a les empêchements, et il y a les tracasseries, donc qui peuvent menacer votre vie, et qu'ils peuvent aussi leur prendre tout le matériel, donc le confisquer, et souvent c'est même pas leur propre matériel.
Ce type de reportage est un exercice qu'on fait à l'université.
تمرين أن ننزل للميدان كي نكون عندما ننخرط في العمل الصحفي بعد التخرج أن نكون متمرسين على نزول للميدان وتصوير أي موضوع.
Oui, bien sûr, c'est dans le cadre d'exercices.
C'est des études très concrètes.
On a que تمارين حية.
نعم.
وصعبة.
صعبة للغاية.
En France, on fait ça un petit peu plus en douceur.
في فرنسا هناك ب بشوية.
أم هي step by step.
En fait, pareil, donc ils font par étapes. Ça commence par étapes. Ils commencent d'abord par des récits de vie, par voir des fois des situations très difficiles, après des situations encore plus pénibles, plus difficiles. Et après, ça monte en crescendo. Donc il est en dernière année, et dans 3 mois, il va finir son cursus et il sera diplômé dans 3 mois. C'est pour ça qu'il a commencé lui par la fin. Il a donné l'exemple du reportage dont on a parlé, parce qu'il est vers la fin de son cursus. Donc il dit que c'est le minimum qu'un journaliste professionnel qui est fini affronte. Des fois, ça va encore plus loin. On lui confisque son reportage. On peut l'effacer. Et on peut lui confisquer tout son travail. Et il dit que ça va plus loin. Il y a des Palestiniens qui sont morts dans l'exercice de leur fonction. Et il y a d'autres aussi qui sont prisonniers, comme le dernier. Donc c'est Mohamed El-Qiq. Donc c'est un journaliste qui a fait une grève de la faim, qui a été arrêté. Et qu'ils sont arrêtés là-bas en tant que journalistes et aussi parce que c'est des citoyens palestiniens. Donc il apprend aussi donc, tout ce qui est la réalisation, le montage télévisuel et aussi cinématographique. Il est bien briefé. Donc comme il sait qu'il est à Lyon, donc il dit, non mais je pense que c'est dans toutes les écoles, il a dit que, bien sûr, il s'est inspiré, il s'inspire dans leur enseignement de l'expérience des frères Lumière. Donc ils apprennent comment leur court-métrage, leur film, c'était l'expérience qui allait donner la révolution qu'on connaît aujourd'hui. Quand il est descendu de l'aéroport, quand il a vu des trains, il s'est souvenu bien sûr de l'image ou de court extrait de la vidéo des frères Lumière qui a filmé l'arrivée d'un train. Ça lui a évoqué ça.
Est-ce qu'il y a un statut de journaliste en Palestine ?
Oui, il y a un statut de journaliste et un statut de média. Et après, il dit qu'ils sont censés être le quatrième pouvoir, mais avec l'occupant, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un syndicat de journalisme. Donc, malgré la faiblesse des moyens, il y a des chaînes, il y a des sites internet. Et il y a une couverture médiatique en Palestine importante.
Pour terminer, Mohamed, vous avez bientôt fini les études. Vous faites quoi après ?
Puisqu'il a eu de très bons résultats, il y a une radio à Hébron qui l'a recruté. Et en plus, il va se consacrer, il va travailler dans le programme et dans le projet pour lequel ils sont venus. Pour faire un partenariat avec les amis en France. Pour qu'ils aient toutes les informations qu'ils veulent sur le peuple palestinien.
Eh bien, merci beaucoup. Félicitations pour votre futur embauche.
Merci beaucoup.
Voilà. Bon, en tout cas, Ranine et Mohamed, on vous remercie infiniment d'être venus ici à Couleur FM pour répondre à toutes nos questions. Et puis nous aussi, on espère que ces coopérations vont aller beaucoup plus loin et que les situations pour vous s'arrangeront un jour, j'espère.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamentent et qui se traînent. Mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, là. Tout de même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
En mars, traditionnellement, la semaine de la presse à l'école permet de tisser de nombreux partenariats entre médias et établissements scolaires. Et c'est justement la semaine qu'a choisi Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, pour signer une convention avec les radios associatives à travers le représentant du syndicat national des radios libres. Cette convention permettra dorénavant de mieux reconnaître et valoriser les radios comme Couleur FM, qui font des partenariats avec les scolaires une priorité, et de développer leurs actions en faveur de l'éducation aux médias, une priorité nationale depuis l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Pour l'occasion, au ministère, Najat Vallaud-Belkacem et Emmanuel Boutrin, le président du SNRL, sont interrogés par des élèves, accompagnés par Radio Fréquence Sillé, une radio en milieu scolaire de la Sarthe.
Madame la ministre, vous allez signer une convention avec le syndicat national des radios libres. Est-ce important et pourquoi ?
Oui, c'est important. Si vous voulez, l'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment que l'école ne peut pas faire face toute seule à tous les défis auxquels elle doit faire face. Et face aux défis que j'évoquais de la désinformation des élèves et de la nécessité de les aider à se repérer dans le foisonnement d'informations, eh ben, on ne peut pas être tout seul, nos enseignants, à porter ce sujet. Donc nos enseignants le portent, bien évidemment. Mais on a besoin de faire appel à des partenaires de l'école. Et les médias sont des partenaires de l'école. Il fut un temps où l'école était quand même assez fermée. Elle voulait pas trop laisser rentrer l'extérieur en son sein. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, au contraire, moi je considère que dans la mesure où les maux de la société entrent dans l'école. On le voit bien, tous les débats, toutes les tensions qu'on connaît dans la société. Par exemple, cette semaine, c'est la semaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Pour ne prendre que ce sujet-là, on ne va pas faire comme si le racisme et l'antisémitisme, ça se produisait dans la société, mais ça ne se produit pas dans nos écoles. Bien sûr que si, dans les cours de récré, il y a des insultes qui fusent, etc. Donc à partir du moment où les maux de la société entrent dans l'école, alors il faut qu'on aille chercher aussi dans la société des forces vives pour venir nous aider dans l'école. Et donc on a besoin des médias, en l'occurrence, sur ces questions d'information, de désinformation. Et les conventions que nous signons avec plusieurs groupes de presse nous servent à cela, à engager ces médias, à nous envoyer leurs journalistes, à venir nous donner un coup de main. Et là, avec ce syndicat, ben, je trouve que finalement, on complète bien notre panel parce que ça nous permet d'avoir les radios libres. Et les radios libres, c'est encore quelque chose de particulier. Moi, je me souviens, au début des années 80, ça a été un sacré combat que d'obtenir justement la possibilité pour les radios libres de diffuser sur les ondes. Ça a été d'ailleurs une grande décision du président de la République de l'époque, François Mitterrand, qui fait partie de ces progrès de société que plus personne aujourd'hui ne remettrait en question. Et qui a permis, ben, tout simplement, à une vraie diversité de se faire entendre sur les ondes. Et donc, avoir le syndicat des radios libres parmi nos partenaires, c'est aussi l'occasion d'aller parler de cette diversité, de cette liberté à nos écoliers, à nos collégiens, à nos lycéens.
Bonjour Emmanuel Boutrin, vous êtes président du SNRL, Syndicat National des Radios Libres en France, et président de LAMARC International, Association Mondiale des Radios Associatives et Communautaires. Une première question pour vous, en quoi cette signature de convention entre le SNRL et le ministère de l'Éducation nationale est importante pour le SNRL? Quel est l'enjeu exactement?
Eh bien d'abord bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. L'enjeu, c'est pas si c'est important pour le SNRL, le syndicat national des radios libres, ou non. L'enjeu, c'est est-ce que c'est important pour les auditrices et les auditeurs, est-ce que c'est important pour les équipes des radios locales et notamment des radios associatives, est-ce que c'est important pour les jeunes, est-ce que c'est important pour les établissements scolaires, les écoles, les collèges, les lycées et pourquoi pas l'université? La réponse, elle est oui, bien sûr. C'est très important parce que la radio, c'est apprendre à se parler, apprendre à communiquer, apprendre à se comprendre et apprendre finalement à vivre ensemble. La radio, c'est un média de citoyenneté. C'est pour ça que cette convention, elle est importante, parce qu'elle va permettre une meilleure collaboration entre l'école en général, de la maternelle à l'université, et les médias locaux que sont les radios associatives.
Quelles compétences les radios associatives françaises apportent en matière d'éducation aux médias et à l'information?
Elles apportent d'abord de l'expérience avant d'apporter de la compétence. Elles apportent l'expérience de la connaissance de leurs auditrices et de leurs auditeurs. Une radio locale et notamment une radio associative, c'est pas seulement des gens qui, derrière une table de mixage ou derrière des micros, poussent des boutons et envoient de la musique ou de l'information. L'information dans une radio locale associative, elle se fabrique. Elle se fabrique, comme l'a dit très bien la ministre tout à l'heure, elle se fabrique avec les gens, avec les auditrices et les auditeurs, avec les gens qui y travaillent. D'ailleurs, les gens qui travaillent dans les radios locales, ce sont aussi des auditrices et des auditeurs. Donc on ne fait pas n'importe quoi et ne dit pas n'importe quoi dans une radio locale. D'ailleurs, c'est un paradoxe. Peut-être qu'on dit moins n'importe quoi dans une radio locale que sur une radio nationale, parce qu'on est en prise directe avec la vie quotidienne des gens. D'une expérience, on en arrive aujourd'hui à des compétences. Et comme je le disais, je pense sincèrement, je suis convaincu que les radios locales associatives ont accumulé tellement d'expériences qu'elles sont les seules à avoir les compétences de ce qu'on appelle la communication de proximité, le lien avec l'auditeur, dire des choses qui intéressent tout le monde, dire des choses intelligentes d'ailleurs, amusantes, ça peut être aussi du divertissement, ça peut être de l'information sportive, mais c'est quelque chose d'intelligent. Intelligent, ça veut dire avoir la connaissance, et c'est avoir la connaissance de son territoire et de ce qui se passe autour de nous. Et seules les radios locales associatives peuvent jouer ce rôle, il n'y a pas d'autres médias, je n'en vois pas d'autres.
Concrètement, comment cet accord sera mis en place sur le terrain dans les mois à venir?
C'est une question difficile. Il est déjà mis en place, j'allais dire, parce qu'il y a aujourd'hui en France une centaine de radios sur les 600 qui existent, une centaine. Il y a 100 départements, donc vous voyez, ça fait, vous le savez, à peu près une par département, en moyenne, bien sûr. Il y a déjà 100 radios qui travaillent comme ça. Finalement, cet accord, ça permet de reconnaître le travail que vous faites. Et ça va inciter d'autres radios, c'est notre but, d'autres radios à prendre exemple sur celles qui font déjà ce travail.
Voilà, vous êtes bien sur Couleur FM, Espace Public, c'est terminé pour ce mois-ci. Le temps de remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission, André Duny, notre nouveau chroniqueur de choc, Ranine et Mohamed, les deux journalistes palestiniens, Véronique Boulieu et Bouala Mazaoum qui m'ont accompagné dans l'interview de nos amis palestiniens justement, ainsi que l'équipe de Radio Fréquence Sillé qui a réalisé les interviews de Najat Vallaud-Belkacem et d'Emmanuel Boutrin. Merci aussi à Laurent Forcheron pour la technique. Nous avons écouté le groupe Trio et sa chanson L'hymne à nos campagnes, et puis Barbara avec Göttingen. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'avril, en espérant vous retrouver le mois prochain pour de nouvelles aventures citoyennes.